Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Hélène Parent.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci à vous de me recevoir.
Eh bien Hélène, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Vaste sujet. Au départ, j'avais pas du tout envie de faire du droit. Je voulais être épidémiologiste.
Donc, épidémiologiste.
Voilà.
Ok.
Donc
biologie.
Biologie pour les épidémies. Donc ce qui a été très à la mode avec le Covid. Mais c'était ce qui m'intéressait au départ. Et finalement, j'ai eu l'opportunité de découvrir le droit. Et là, je me suis dit, c'est très intéressant.
Comment vous avez découvert le droit ?
En discutant avec des gens et en lisant des livres. Et notamment, c'était un livre qui m'avait fasciné, où il y avait un juge pour enfants dedans. Et je m'étais dit, je vais devenir juge pour enfants ou juge d'instruction. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en discutant avec les uns et les autres, je me suis dit, est-ce que j'arriverais forcément à faire le métier tel que je l'imagine ? En tout cas, le métier de juge pour enfants ou de juge d'instruction tel que je l'imagine, qui était pour avoir un impact sur les autres. Et en discutant avec des juges, je me suis rendu compte que c'était malheureusement une vision un peu idéaliste de la fonction de juge, et qu'en fait, malheureusement, ils n'avaient pas forcément le temps qu'ils auraient aimé pouvoir traiter leur dossier. Et là, je me suis dit, je risque d'être frustrée. Donc, soyons avocate. Et donc, je me suis dit, je vais être avocate. Mais je m'étais dit, je vais être avocate dans cette direction-là. Et je vais faire du pénal, je vais défendre la veuve et l'orphelin, etc. Deuxième année de fac, j'étais à Nanterre. La fac a été fermée pendant plusieurs semaines, voire mois, à cause du CPE. Et donc, avec des amis, au bout de quelques semaines, on trouvait ça drôle, mais il y a un moment, ça devient lassant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller traîner aux assises. Et là, j'ai envie de dire que ça a été un petit peu un réveil un peu violent, où je me suis rendu compte que, certes, c'était fascinant, c'était absolument génial comme métier d'être avocat pénaliste, mais que c'était quand même voir ce qu'il y avait de plus noir dans la nature humaine. Et là, je me suis dit, est-ce que je serais capable de le faire? La réponse était non. Je me suis dit, je suis pas capable, en rentrant chez moi le soir, de mettre ça derrière moi, de ne pas me laisser atteindre en permanence. Et donc, je me suis dit, je vais laisser ça à des confrères qui seront beaucoup plus compétents que moi. Et j'ai découvert le droit des affaires. Et une fois que je suis tombée là-dedans, j'ai adoré.
Comment est-ce que vous avez découvert le droit des affaires? C'était à la fac un cours ou...
C'était en fac, exactement à la fac des cours d'abord de fiscalité. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant parce que j'aimais bien les chiffres. Et donc, je suis partie faire un stage chez Ginestier Magellan, Palais Vincent à l'époque, avec Brigitte Berdugo. Et donc, j'ai fait mon premier stage d'avocat en fiscalité. Et j'ai beaucoup aimé, mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait un côté frustrant qui était, on discutait avec l'administration fiscale. On n'a pas toujours, soit on est en contentieux fiscal et ça peut être intéressant, ou alors c'est la structuration, on n'est pas tout le temps impliqué entièrement dans le dossier. Et en parallèle de la fiscalité, de ce stage en fiscalité, j'ai été récupérée aussi en partie par le corporate, puisqu'on travaille très souvent main dans la main, fiscalité, droit des affaires corporate, private equity. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée dedans. Et là, je me suis dit, en fait, le private equity, ça a le côté chiffre que j'aime bien, ça a le côté négociation que j'aime bien, trituration intellectuelle, que je trouve fascinante, et le côté business. Et donc, je suis tombée là-dedans comme ça. Et comme beaucoup d'avocates, je m'étais dit, je vais faire ça pendant 3-4 ans, et après ça, j'arrêterai les horaires absolument fous d'avocat, et je partirai en entreprise, même si on travaille pas forcément moins en entreprise. Et 15 ans après, je suis toujours là.
Justement, revenons là-dessus. Donc, votre stage en fiscalité, c'était un stage pendant l'école d'avocat?
Bien avant. En fait, j'ai eu cette chance de pouvoir commencer mes stages dès la fac. En fait, j'étais en troisième année de droit quand je commençais mes stages. Mmh. Et donc, en fait, depuis ma troisième année de droit, je faisais des stages pendant les 2 ou 3 mois de vacances l'été.
Ouais.
Parce que la fac, c'est génial. Hein, on apprend beaucoup de choses, mais on apprend que de la théorie.
Ouais.
Et je me suis dit, je vais pas attendre d'arriver à l'école d'avocat pour découvrir le métier d'avocat. Et donc, en fait, j'ai eu cette chance de pouvoir faire beaucoup de stages. Et une fois qu'on a commencé à en faire, c'est de plus en plus facile d'en trouver.
Oui.
Et en fait, c'est le cercle vertueux, en fait.
Vous avez basculé en private equity dès...
Très tôt.
Ouais,
Alors, en fait, très tôt, je suis partie en private equity, mais je suis partie en private equity en financement IMO, en fait. C'était relativement similaire à l'époque, en tout cas dans la partie que je faisais. Et finalement, je me suis dit, je peux pas faire tout en même temps. On va rester sur, on va en choisir un des deux. Et finalement, en fait, ça a été le corporate private equity au sens large. Donc,
ouais.
Voilà.
Et donc, vos stages d'école d'avocat?
Ça a été, j'en ai fait un premier en alternance, en fait. C'était du restructuring et du private equity en même temps. En fait, corporate et restructuring étaient dans la même équipe. Et donc, je faisais 50-50. Ensuite, je suis partie en entreprise. Et ensuite, je suis partie en private equity. Et je suis restée.
Et vos premières années, alors, de collaboration?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir, d'avoir été recrutée là où j'ai fait mon stage final. Et donc, la passation entre stage et collaborateur, en fait, s'est faite de manière extrêmement fluide. Alors, je me souviens quand même, malgré tout, un matin, d'aller au bureau, j'avais été recrutée chez Auric, et de remonter l'avenue Marceau et de me dire, mais en fait, ça y est, là, c'est plus un stage, je suis devenue avocate, et donc, ça va être le chemin que je vais prendre pour longtemps, puisqu'il n'y a pas de, date butoir, en fait. C'est plus comme un stage où on voit une date butoir, et là, je me suis dit, oh là là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et donc, je travaillais en fait dans l'équipe de Mathieu Grolmund et de Jean-Pierre Martel chez Auric. Et donc, j'ai passé mes premières années de collaboratrice chez Auric. Et après ça, j'ai suivi Mathieu Grolmund quand il est parti chez Descartes. On a commencé à faire grossir l'équipe. Et ensuite, on ne s'est plus quitté avec le reste de l'équipe. Et donc, en fait, on a construit tout ça jusqu'à ce qu'on arrive chez Hogan.
Donc vous êtes finalement encore aujourd'hui avec
la même équipe d'origine.
Ouais.
En fait, on a pu changer de cabinet, mais on n'a jamais changé d'équipe.
Ouais.
C'est ce qui est absolument génial, c'est qu'on a vraiment réussi à construire quelque chose ensemble. C'est la beauté de ce métier aussi.
Ouais. Et c'est intéressant ce que vous dites sur le fait un jour de vous être dit, en fait, ça y est, il n'y a plus de date butoir, c'est le long chemin. Je m'étais fait exactement la même réflexion. Et je pense que c'est quand j'ai compris ça que, pareil, comme vous, j'avais un peu paniqué en mode,
c'est OK, ça.
Mais du coup, maintenant, comment on avance quand on n'a plus d'objectif qui est déjà fixé, c'est-à-dire le prochain stage, la prochaine collab, prochain examen. Et finalement, comment est-ce qu'on avance quand ça, c'est plus quelque chose qui est imposé par l'extérieur?
Exactement.
Quoi.
En fait, j'ai vraiment eu cette impression de passage à l'âge adulte, ce qui est assez ridicule parce que techniquement j'avais 25 ans donc j'étais déjà adulte en fait, mais il n'y avait plus quelque chose d'extérieur qui m'était imposé, qui était passage en classe supérieure, un examen, un projet, etc. Et là je me suis dit, bah ça va être à toi Hélène de créer tes propres projets et tes propres challenges, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance aussi. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est à ce moment là où il faut grandir, il faut avancer. Et il y a un petit côté un peu vertigineux hein, quand même, en se disant, mais j'en ai pris pour 50 ans là, donc ou 40 ans,
ouais.
Peut-être pour toujours en fait, je ferai ce chemin, je n'aurai plus quelque chose d'extérieur qui me fera grandir.
Et comment est-ce que vous vous êtes fixé justement des objectifs? Est-ce que vous avez fait cet exercice? Je vous pose la question parce que je me souviens d'avoir fait une interview, je sais plus qui est-ce que exactement c'était, je crois que c'était Viviane C, qui maintenant est chez Stephenson Harwood en droit bancaire. Et je crois que c'est elle qui disait que tous les ans, elle se fixait ses objectifs pour, ah ben, je veux être autonome sur tel type de dossier, je veux qu'on me fasse confiance sur tel type de dossier. Et donc, elle avait un peu ce truc année après année. Est-ce que est-ce que ça a été une réaction à cette espèce de prise de conscience que vous êtes devenue adulte à ce moment-là? Ou est-ce que, moi, je sais que j'ai pas fait cette transition à ce moment-là quand
je pense pas. Ouais. En toute honnêteté, j'aimerais bien dire que oui, je m'étais fixé un objectif chaque année,
ouais,
comme des bonnes résolutions, et la réponse est non. Moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Ça se faisait de manière assez naturelle, en se saisissant des dossiers, en essayant d'avoir de plus en plus d'autonomie. Et c'est plutôt un moment où je me disais, bah, ça y est, j'ai compris. Ça, je sais faire maintenant. Et donc, en fait, c'était plutôt, je dirais que j'avais plutôt l'impression de la validation des acquis, plutôt que je me fixe un objectif, en tout cas en début de carrière. Après, évidemment, plus on grandit dans sa carrière et plus on se fixe des objectifs, plus ou moins avoués, il faut aussi être clair, hein, sur est-ce que, un, je sens que je veux devenir partenaire, c'est quand même une vraie question à se poser.
Ouais.
Est-ce que je... Et après, c'était, voilà, mon objectif est de développer X et Y comme client et de faire ci et de faire ça, etc. Et c'est plutôt été ça, mais plus tard dans ma carrière. Les premières années de collaboratrice, c'était pas du tout. J'ai pas fait ce cheminement-là en me disant, bah, je vais valider quelque chose chaque année. Parce qu'en fait, la différence, c'est que les collaborateurs, il y a les juniors, les mids, les seniors, etc. Et en fait, on prend un an, en fait, chaque année. Et donc, je me fixais pas un objectif de je veux passer en grade supérieur, puisqu'il n'y a pas de grade. C'est presque automatique. C'est plutôt, bon, bah voilà, ça fait un an maintenant. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Je le voyais plutôt comme ça, en fait.
Est-ce que vous aviez l'impression que, enfin, votre équipe avec qui vous êtes, du coup, depuis le début, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être guidée dans cette montée en maturité?
Oui. Alors, c'est vrai qu'en fait, l'équipe, au départ, c'était essentiellement, donc, il y avait l'associé et moi, et ensuite, c'était plus jeune. Donc, en fait, je dirais que c'était plutôt dans l'autre sens. J'étais plutôt poussée vers le haut.
Avec l'arrivée des plus juniors.
Voilà. Mmh. Et c'est surtout, en fait, parce que, à un moment, on se dit, j'aime beaucoup le « laisse, je vais le faire ». En fait, c'est « t'inquiète pas, tu sais quoi, je vais faire le dossier, je vais faire le truc, au moins je me fais confiance, je sais ce que je peux faire, etc. Et » et je dirais qu'il y a eu la prise de conscience de « mais en fait, c'est pas un métier, malgré ce qu'on peut dire, que l'on fait seul. » C'est pas du, en tout cas, c'est peut-être le cas dans d'autres domaines du droit, dans le domaine du corporate et du private equity, c'est pas vrai. On est une équipe. Et donc, en fait, c'était plutôt « comment est-ce que je peux faire grandir l'équipe aussi ? Comment est-ce que moi, je peux grandir ? Comment est-ce que je peux déléguer ?» Et donc, je suis obligée de former les plus jeunes. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je trouve que c'est assez génial aujourd'hui de se dire, là, typiquement, il y a un collaborateur, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, quelque truc comme ça. Et c'est quand même absolument génial quand on dit, t'inquiète pas, il y a Gauthier. Ou alors que je peux sans problème lui confier le dossier. Et je sais qu'il sera bien fait. Je sais que les clients seront contents. Et quand lui ramène également des nouveaux clients, etc., c'est absolument génial. C'est de se dire, c'est comme ça aussi qu'on grandit et qu'on fait grossir une équipe.
Vous avez dit au tout début que initialement vous vous disiez que voilà, vous alliez faire 3, 4, 5 ans comme avocate et puis ensuite que ce serait la rampe vers
l'entreprise.
Des beaux postes en entreprise. Et finalement, non. Est-ce que au bout de 3, 4, 5 ans, vous vous êtes posé cette question? Peut-être que vous avez été d'ailleurs chassé ou vous avez eu des propositions en ce sens-là et que du coup, les questions, de toute façon, vous avez dû vous les poser ne serait-ce que par la sollicitation extérieure. Mais oui, je suis assez curieuse de ça.
Alors, je confirme que dès la deuxième ou troisième année, on est très régulièrement chassé, aussi bien pour des postes dans d'autres cabinets que des postes en entreprise. Et je dirais qu'on se les pose forcément, en fait, la question de est-ce que je veux rester dans ce métier? Est-ce que je sens que je suis faite pour ça aussi? Parce que c'est une question à se poser. Les qualités, ou en tout cas les demandes du métier évoluent avec l'ancienneté. Donc au départ, on nous demande pas d'être bon techniquement, on nous demande d'avoir un cerveau et d'être capable de réfléchir. Après ça, c'est d'être mieux en mieux techniquement. Et ensuite, c'est de développer les skills de management, de développer les skills de business development, etc. Et donc, chaque année, en fait, en réalité, quand on se rend compte que voilà, on passe une étape, on se pose la question, est-ce que je pense que j'ai ce qu'il faut pour continuer dans ce métier? Est-ce que j'en ai toujours envie aussi? Et donc, je sais que c'est une question que je me suis posée très régulièrement. Et finalement, en fait, je me suis dit, je me vois pas partir en entreprise parce que j'aime la variété de ce métier, j'aime la variété des interlocuteurs que l'on a, j'aime les dossiers que l'on a, les personnes avec qui on travaille, aussi bien les confrères du même cabinet, mais également les confrères qui sont de l'autre côté de la table, mais également nos clients, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'est tellement un métier fait de rencontres et de richesses. Que je ne me suis pas vue partir en entreprise où, par définition, en fait, on a moins ce côté variété des dossiers. On peut l'avoir, mais il y aura moins d'interlocuteurs. Et finalement, en fait, j'étais très contente là où j'étais. Je me souviens d'une des premières choses qu'on m'a dit avant que je choisisse ma collaboration, j'avais 3 offres. Une chez Auric et dans 2 autres cabinets qui me plaisaient beaucoup. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et mon associé m'a dit, écoute Hélène, je vais te donner le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne à l'époque. Le plus important, c'est les gens avec qui tu vas le faire. Parce que ton boulot, tu arriveras à le rendre intéressant, mais est-ce que tu vas passer tellement de temps en fait avec ces personnes-là, avec tes collègues, est-ce que tu penses qu'ils vont t'apporter quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il te faut pour toi? Et en fait, je me suis dit, tant que les gens avec qui je le fais, et pour qui je le fais, ça m'intéresse, pourquoi est-ce que j'irai voir ailleurs? Et donc finalement, j'ai décidé de pas partir en entreprise
et de pas partir tout court d'ailleurs.
Et de pas partir tout court en fait, de rester avec l'équipe, de rester avec les clients, de développer tout ça. Après c'est vrai que parfois on change de cabinet avec l'équipe, donc on a ce côté nouveauté aussi, mais tout en gardant un corps d'équipe ou une âme au départ qui fait qu'on est bien en fait.
Et justement sur je trouve que cette fidélité, cette longévité dans une équipe, elle se aujourd'hui c'est on va dire de plus en plus courant de changer au bout de 2-3 ans, on change et puis ensuite encore 2-3 ans, on rechange. En plus mine de rien financièrement parlant, les gaps financiers de rétrocession, ils se font beaucoup quand on change. C'est des invitations à et puis il y a des petits coups de mou dans des équipes, voilà. Vous cette fidélité, c'était quelque chose de, comment est-ce que vous le vivez, comment est-ce que vous l'avez vécu?
C'est exactement le terme fidélité, mais c'est pas de la fidélité aveugle. Autrement dit, une équipe, ça se construit, c'est des questions de confiance et c'est des questions de choix. Et donc en fait, on s'est tous choisis en réalité, et on connaît les qualités et les défauts des uns et des autres, et on se choisit de se faire confiance mutuellement et de se pousser vers le haut. En effet, d'un point de vue financier, parfois c'est plus intéressant de changer en se disant je vais changer de cabinet, donc je vais faire un gap. Ou alors, donc ça peut être ça la raison, ça peut être finalement j'aime moins ce que je fais, donc j'aimerais faire un peu plus de ci ou un peu moins de ça, donc je vais aller voir ailleurs. Ou alors les horaires sont trop forts, donc je me dis que je vais aller dans un autre cabinet où je travaillerai moins, ce qui est généralement pas le cas, hein, mais on nous le vend toujours, donc voilà. Mais tout ça, j'ai envie de dire, c'est court-termiste. Parce que si on veut avancer et si on veut progresser, c'est important de travailler avec plusieurs personnes différentes, mais également d'avoir des mentors. Et donc, en fait, je le verrais plutôt comme ça, comme étant des choix que l'on fait tous et où, on se pousse dans nos retranchements mutuellement. Et j'ai envie de dire, c'est pas que du haut vers le bas, mais aussi beaucoup du bas vers le haut. Hein. Honnêtement, il y a une grande liberté de parole et c'est pas quelque chose de hiérarchique en fait. Si on veut construire une équipe, en fait, je considère que c'est qu'on est un métier où on a besoin de. C'est un lifestyle ce métier en fait. Ce métier, c'est pas du 9h-18h ou du 9h-20h ou 23h ou quoi au caisse. C'est vraiment un métier où on donne beaucoup de soi. Et donc, en fait, si on donne de soi, il faut accepter de laisser rentrer les gens. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime forcément laisser rentrer les gens facilement. Donc, une fois qu'on a trouvé des bonnes personnes, voilà, on reste ensemble et on se choisit. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu de... on choisit de grandir, de se pousser, de se challenger beaucoup. Et sur le long terme, ça a payé puisque j'ai été... J'étais nommée associée chez Baker McKenzie à l'époque. Et c'est vrai que c'est aussi très agréable de se dire voilà le chemin que j'ai parcouru et c'est pas quelque chose que l'on arrive à faire seul en fait.
Ouais, vous avez vraiment eu cette sensation d'avoir été aussi poussée vers ça, vers ce partnership par l'équipe avec laquelle vous travaillez quoi.
Et c'est vraiment c'est pour ça que je réitère, c'est vraiment par l'équipe. Donc il y a évidemment l'associé et les associés qui nous font confiance. Donc il y a le sponsor, mais également les autres associés du cabinet qui nous nomment en fait, où on se fait confiance. Hein, donc faire rentrer quelqu'un dans le partnership malgré tout, c'est quelque chose. Mais également par les collaborateurs, parce que ça demande beaucoup de temps en fait de réussir à faire grossir son business. Ça veut dire aussi beaucoup de un changement aussi de paradigme, parce que quand certains des membres de l'équipe, j'étais jeune collaboratrice au départ, et finalement maintenant je suis leur associée aussi, et en fait tout ça, ça fait qu'ils nous poussent et ils étaient aussi contents que moi en fait le jour où j'ai été nommée associée, et je serai aussi content le jour où eux le seront.
Il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. La première, c'est donc vous avez commencé dans une équipe et il y a eu 2 changements de cabinet ensuite jusqu'à votre arrivée.
Trois au total, ouais.
Votre arrivée ici.
Deckert, Baker McKenzie et donc ici, c'est le 4e.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
Donc 3 changements.
C'est ça.
C'est pas toujours facile d'arriver en équipe dans une structure. Quelle est votre expérience de bonne greffe ou de mauvaise greffe? J'espère que vous en avez pas eu, mais en tout cas, votre expérience de la greffe.
C'est comme un mariage. Il faut être deux pour le vouloir. On peut pas avoir un mariage forcé. Autrement dit, venir en équipe, ça veut dire qu'il faut que les gens de l'équipe qui arrivent cherchent à s'intégrer et ne cherchent pas à rester entre eux. Ça, c'est quand même le point principal. L'objectif n'est pas de faire des équipes dans les équipes. Et vice-versa, il faut aussi que l'équipe qu'on rejoigne souhaitait que l'on arrive. Je pense que si c'est pas le cas, s'il y a des mouvements qui sont plus ou moins volontaires, je pense, ou forcés, ou pas choisis par tout le monde, j'en ai pas en tête et ça nous est pas arrivé. Mais en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où il faut faire l'effort d'aller vers les autres. Donc ça, c'est très, quand on est en équipe, c'est très confortable parce qu'en fait, les clients nous suivent, l'équipe suit aussi, donc en fait, c'est facile, il y a une très forte continuité. Et donc la tendance pourrait être, on va rester entre soi parce qu'en fait c'est facile, on sait comment ça fonctionne. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'aller voir les autres. Et donc c'est d'avoir cette curiosité, c'est d'aller déjeuner avec les autres collaborateurs, déjeuner avec les associés, s'intéresser à eux, s'intéresser à leurs clients, s'intéresser à ce qu'ils font. Ne pas essayer d'imposer non plus son propre style. C'est-à-dire que quand on arrive, on a tous des bagages différents, des points de vue différents, et il n'y a pas une bonne façon, une mauvaise façon de faire, en fait. Donc c'est vraiment réussir mutuellement à s'écouter, à s'entendre, à créer, et ça va demander au moins au début un effort de part et d'autre, de ne pas se rester sur ses acquis, mais essayer d'aller vers l'autre et de l'écouter. Et après ça, ça se fait de manière extrêmement naturelle. Et nous, on l'a vu ici, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on était quand même une dizaine, on rejoignait une équipe qui marchait du feu de Dieu, qui était déjà grosse. Et en fait, aujourd'hui, c'est une seule et même équipe. Voilà, ça s'est fait et ça a été un choix conscient de chacun des associés, mais également des collaborateurs.
C'est intéressant ce que vous dites sur le fait que vous venez et vous venez avec vos clients aussi. Et je trouve que ça pose pas mal la question de la place de la marque versus la place de l'équipe, vous voyez. Et ce qui m'amène à deux questions. La première, c'est est-ce que au sein des différentes structures dans lesquelles vous avez exercé, vous avez senti des vraies cultures très différentes, des manières d'exercer différentes, est-ce que vous avez senti des écosystèmes différents ou est-ce que au global il y a une certaine forme d'harmonie quand même de lifestyle? Vous avez parlé de lifestyle tout à l'heure, mais je trouve que c'est une question intéressante.
Alors c'est une question qui est compliquée à répondre parce que la vision que l'on a n'est pas la même en fonction de notre ancienneté. Donc c'est vrai que la manière dont fonctionne un cabinet quand on est jeune collaborateur, on s'en rend pas forcément compte en réalité. Ça va dépendre de l'associé ou des associés avec qui on travaille. La manière dont fonctionne un cabinet au sens large, quand on est jusqu'à ce qu'on soit senior, c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. On s'en rend beaucoup plus compte en fait quand on est senior et ensuite conseil ou associé. Moi, j'ai fait que des cultures anglo-saxonnes et même au-delà de ça que des cultures américaines. Ça ne veut pas dire que tous les cabinets étaient les mêmes. Chacun a sa manière de voir les choses. Est-ce que c'est très américain? Est-ce que en fait le bureau français est en réalité une succursale du bureau américain? Et donc en fait, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup, le bureau de Paris a beaucoup moins de poids d'un point de vue global. Est-ce qu'au contraire le bureau de Paris est très fort et donc on a plus de poids? Est-ce que c'est un cabinet qui est complètement intégré? Autrement dit, est-ce que c'est un seul et même PNL à la fin de la journée ou est-ce que chaque bureau, en fait, facture les autres bureaux et donc en fait, ça veut dire renégocier quand on a un dossier cross-border, devoir négocier les fees avec chacun des autres bureaux ou est-ce qu'en fait, on considère que c'est un fee global? Et ça, c'est pas toujours le cas. Et voilà, donc il y a des différences entre les différents cabinets d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue de culture aussi. Il y a des cabinets qui sont plus ou moins hiérarchisés et plus ou moins autonomes. Voilà, c'est vrai qu'après moi j'ai pas fait de cabinet anglais ou cabinet français où la place de la marque peuvent être plus importante. Après il y a aussi les dossiers du réseau et donc les dossiers du réseau ça en revanche ils restent dans le réseau parce que c'est des dossiers qui viennent d'un autre bureau etc. Quand j'ai les clients suivent c'est les clients que nous on développe parce que ils peuvent venir grâce aussi à la marque, ça peut aider, mais malgré tout on est un métier de confiance. La marque peut aider au départ pour attirer certains clients, certains gros corporates, certains gros fonds, etc. Mais il y a un moment où ça va être la relation intuitu personnée qui va se créer avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et donc en fonction, quand on bouge, le client peut également dire, mais en fait, moi, je veux que tu continues à me conseiller parce qu'en fait, c'est toi qui me connais, tu sais comment on fonctionne. Donc, ce serait peut-être différent si on avait bougé dans une petite boutique où on avait créé, nous, notre boutique, parce que pour des raisons internes, les clients n'auraient pas forcément pu suivre. Comme là, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que les clients ont suivi, donc la marque aide, ça c'est évident. Ça ouvre des portes. Mais au-delà de la marque, moi je dirais que c'est la qualité des gens qui sont à l'intérieur du cabinet. C'est-à-dire que c'est vrai que je le vois chez Hogan, c'est extrêmement agréable de pouvoir présenter tous ses associés, d'avoir tous les autres départements, qui sont pas des départements support en réalité, qui sont des vrais départements avec leurs propres clients. Et ce qui aide beaucoup en fait, en crédibilité également.
Ça me fait penser à une chose qui est que dans les grandes structures, peut y avoir une forme de tentation. Je ne sais pas si c'est une tentation, mais en tout cas, c'est parfois une possibilité de devenir associé et de le devenir, entre guillemets, sans tellement aller chercher ses propres clients, mais par, entre guillemets, le business qui est généré par la force centrifuge du réseau.
Ça existe, et j'ai envie de dire, c'est pas... Il n'y a aucune honte à avoir, au contraire, parce qu'on en a besoin aussi. Je dirais que c'est la... Alors moi, je la ferais différemment. Je pense que le réseau apporte beaucoup. Et qu'on ne peut pas devenir associé sans la force du réseau aussi. Parce que on a... Sinon, autant monter sa boutique, en fait. Quand on est dans des plus grosses structures, c'est aussi parce qu'on a besoin des autres équipes, des autres bureaux. Après, voilà, il y a des associés... qui utilise en fait plus exactement pour qui le cabinet est son propre client. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire qu'ils font grossir les clients du cabinet. Donc il y a les chasseurs, il y a les cueilleurs. C'est deux mindsets différents. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense qu'il nous faut les deux. Je pense qu'on peut être à la fois chasseur et cueilleur. C'est bien de passer beaucoup de temps pour aller chercher des nouveaux clients, mais on oublie l'importance des clients que l'on a déjà et qu'il est important de les choyer aussi et de les fidéliser, de les développer parce qu'il y a toujours des gens qui vont frapper à leur porte. Et donc c'est pour ça, je pense que voilà, il y a des associés en effet qui développent beaucoup en interne. On a des associés qui exportent beaucoup dans d'autres bureaux aussi. Quand on exporte, on est content d'avoir des associés qui peuvent faire en fait ces dossiers-là. Donc voilà, on a cette chance chez Hogan à Paris d'être très exportateur aussi. Et en fait, on utilise beaucoup les autres bureaux. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des associés qui acceptent d'avoir d'autres clients qui ne sont pas les clients qu'eux-mêmes ont développés. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que c'est assez sain. C'est vrai que c'est très anglais, en réalité, de ne pas développer sa propre clientèle. Il y a beaucoup de la clientèle de la marque. C'est vraiment un modèle, en tout cas, c'était. Ça l'est de moins en moins, mais pendant de nombreuses années, c'était le principe du modèle anglais, hein, qui était, ce ne sont pas les clients des associés, mais ce sont les clients du cabinet. Et l'objectif est de faire grossir les clients du cabinet. Et c'était très intéressant. C'est vraiment un autre,
notre mindset. Et vous êtes positionné comment dans cette, alors déjà, première question, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu un moment où vous vous êtes posé la question, est-ce que je vais vers le partnership? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Quand est-ce que cette question s'est posée et comment est-ce que vous l'avez abordée, cette question?
La question, elle se pose en réalité relativement tôt. Elle se pose, en tout cas moi je me la suis posée, je pense que je vais être en cinquième année, quelque chose comme ça, au moment où je commence à faire du BD. Ou même avant, mais vraiment c'est en cinquième année, à peu de choses, quatrième ou cinquième année où je me suis dit, mais faire du BD c'est bien, donc du business développement c'est très bien, mais pour faire quoi? Donc ça veut dire pour aller chercher des nouveaux clients ou pour développer des clients, mais... est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de devoir, j'ai pas envie de dire demander du travail, mais d'aller dehors pour aller chercher du travail? Est-ce que j'ai envie de, ou est-ce que je préfère attendre qu'on me nourrisse? Et c'est vrai que spontanément, j'avais pas du tout envie d'aller dehors, chercher des clients. Parce qu'en fait, ça veut dire se mettre en danger. Ça veut dire, devoir, aller voir des gens, leur, demander ce qu'ils font, s'intéresser, leur finir à la fin par vraiment leur dire, bah écoute, j'aimerais bien te conseiller, j'aimerais bien, est-ce que ce dossier-là, j'en ai entendu parler, est-ce que je pourrais te... voilà, ou donne-moi un dossier. Et vraiment devoir demander du... demander, parce que les premières fois, c'est pas vrai, nous sommes tout crus. Hein, j'aimerais bien dire qu'on attend et que on nous apporte un superbe dossier. Non, au départ, on y va, il faut aller dehors. Et Et ça met du temps, en fait. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et donc, moi, j'étais beaucoup plus au départ en mode service partner. Autrement dit, je vais faire grossir les clients que je connais. Donc, qui sont les clients existants de mon associé, de mon équipe, du cabinet. Et je vais les faire grossir. Parce que ça c'est se mettre en danger, mais un peu moins. Parce qu'on a commencé à avoir cette relation. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, je me suis dit, j'ai aussi envie d'y arriver par moi-même. Donc, je vais aller dehors et je vais y arriver.
Comment est-ce que vous vous y êtes prise pour déjà, ne serait-ce que faire la première étape, c'est-à-dire service partner, je vais faire grossir les clients existants. Quel a été votre changement de posture à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous y êtes prise de façon un petit peu concrète?
De façon très concrète, en discutant. En discutant avec eux, en fait. Parce que c'est très facile de faire le chirurgien. Autrement dit, surtout dans notre métier de M&A ou de private equity, c'est on fait l'opération et une fois que le closing est fini, on a le closing dinner et puis voilà. Mais en fait, il y a toute la vie quotidienne de la société derrière, ou du fond. Et pour que les clients pensent à nous, il faut que ce soit automatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les appelle, on va déjeuner avec eux, on va prendre un café, on va s'intéresser à eux et aux problématiques qu'ils rencontrent. Également, on va s'intéresser en fait à ce que font nos associés en interne. Parce que, un exemple très concret, une société. Donc, on fait leur levée de fonds, on fait une série B, par exemple, et on sait qu'ils vont vouloir se développer. Et on sait qu'ils ont une problématique, ils ont une problématique IP ou ils ont une problématique avec leurs salariés. Moi, c'est pas mon domaine. Mais j'ai des associés qui sont très bons là-dedans. Et donc, en fait, en discutant avec le client, je me rends compte que cette problématique, ça va être une problématique sociale. Donc, je vais en parler, moi, avec mes associés en social, pour avoir les premiers éléments de réponse. Et en fait, comme ça, après ça, on récupère cette partie du dossier aussi. Et en fait, on sert le client pour toutes ces problématiques, en fait, et pas uniquement pour sa levée de fonds. Et on devient leur conseil, et pas uniquement leur chirurgien cardiaque pour une petite opération. Et c'est comme ça qu'on commence à les faire, à faire grandir, en fait, ces clients, en se rendant compte que voilà, ils ont le juridique imprègne au quotidien la vie des entreprises et la vie des fonds.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours. Enfin,
j'ai pas dit que c'était facile.
Non, mais c'est délicat parce que le client, il a potentiellement aussi d'autres conseils avec qui il a l'habitude d'eux, et donc c'est un peu ce truc de ouvrir et en même temps, voilà.
Exactement. Et en fait, je pense qu'il faut toujours faire attention aussi à ne pas dénigrer ses confrères. Pourquoi? Parce que la route est très longue. Et l'objectif n'est pas forcément de virer les conseils historiques. Parce qu'en fait, les conseils historiques, ils ont eux aussi bâti une relation de confiance. Et donc, parfois, c'est de travailler en binôme avec eux. Ça a pu arriver aussi sur des dossiers où voilà, le conseil historique n'avait pas forcément les compétences pour arriver au développement d'après de la société, mais il avait l'historique. Et donc, en fait, c'est de travailler avec lui pour ne pas jeter à la poubelle tout le passé. Parce que dans une opération, on arrive, on relit la doc, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Alors que le conseil historique, il le connaît. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas virer le conseil historique. Et voilà, et de dire aux clients de manière extrêmement extrêmement ouverte, je suis sûre que tu es très bien conseillé, mais si tu veux rencontrer notre équipe, si tu veux qu'on t'aide sur ces sujets-là, etc. Et après, ça se fait de manière de plus en plus naturelle. Donc, je dis pas que c'est facile, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais que la vraie recette, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Et s'intéresser à ce qu'ils font, ça va au-delà du juridique. C'est s'intéresser à leur business, à leurs problématiques.
Ça me fait sourire ce que vous dites parce que j'ai deux sociétés et il y en a une, Iris et Thémis, pour laquelle on lève des fonds en ce moment. Et je trouve nos interlocuteurs, c'est beaucoup des avocats parce que c'est une entreprise de recrutement pour avocats. Et donc, on est en permanence avec des avocats. Et puis, de manière globale, moi, je suis en permanence avec des avocats. Et je trouve que, en tant que chef d'entreprise, il n'y a rien de plus agaçant. Et en fait, c'est même stressant que des personnes qui te demandent, comment t'as structuré les choses ou machin, t'as fait ceci, t'as fait cela. Et puis, a priori, enfin, en tout cas, moi, enfin, nous, Iris et Demis, on s'est toujours fait conseiller pour le juridique, quoi. Et ensuite, les gens te font douter sur ce qui a été fait par l'autre conseil. Et ça a été le cas pour la structuration qu'on a choisi de faire pour cette levée de fonds. Ça a été le cas sur d'autres trucs. Et en fait, en tant que client, c'est horrible. C'est horrible parce que on en arrive à cette espèce de truc de, ben, en fait, finalement, je peux avoir confiance en personne, quoi. Enfin, parce que du coup, chacun y va avec sa sauce.
C'est ça.
Chacun a son approche, sa méthode, son truc, son machin. Et donc finalement, pourquoi est-ce que je devrais avoir plus confiance en la structuration proposée? Voilà,
ça.
Exactement. Et d'un autre côté, ben, y a d'autres personnes qui ont l'air de faire comme ça. Mais bon, ça se trouve, c'est juste une habitude qui a jamais été challengée et qu'on pourrait faire mieux autrement. Mais, et voilà, en tant que client, enfin, moi, c'est des trucs vraiment, ça me...
C'est crispant, je pense.
C'est très crispant. C'est très crispant parce que ça fait douter sur des trucs sur lesquels, en fait, a priori, on n'a pas voulu douter. C'est pour ça qu'on s'est fait conseiller, quoi.
Voilà,
et c'était pour
après,
se décharger mentalement.
Exactement. Après, ça peut arriver aussi de, on dit, bah, moi, ça m'est arrivé en lisant un pacte de dire, mais, pourquoi ça a été fait comme ça? Et donc, on leur pose la question. Et en fait, généralement, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient au départ. Mais c'est le fruit de négociations. C'est le fruit d'un, voilà, de compromis de part et d'autre. Mais il faut pas arriver en disant, mais t'as mal structuré ton deal. En fait, je suis d'accord avec vous. Généralement, ils sont conseillés. Donc, il y a une bonne raison pour laquelle c'est là. Ça veut pas dire qu'il faut pas le remettre à plat si on peut, si finalement pour la société a évolué. Je pense par exemple aux clauses de lever pour les fondateurs. Voilà, c'est qui est quand même toujours un sujet très sensible, aussi bien pour les fondateurs que pour les fonds. Et c'est le résultat d'un compromis. Et donc voilà, il faut pas dire bah est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Bah oui, généralement en fait le fondateur il sait ce qu'il a fait. Parce que le fondateur et le management à la fin de la journée, c'est quand même eux qui décident. Nous, on est là pour conseiller, pour dire bah voilà ce qu'on pense que tu peux faire, on est là pour négocier. Mais la décision in fine, c'est pas la nôtre. Nous, on donne vraiment les conseils, on dit bah voilà, tu tout ça, je pense que tu peux y arriver, ça je pense que tu y arriveras pas. Voilà la raison pour laquelle on te demande si et ça. Mais généralement, le client, il lit la doc, il sait ce qu'il a signé. Et donc, le challenger en disant, bah, en fait, t'as été mal conseillé, c'est généralement pas génial. Après, ça arrive que ce soit dans l'autre sens, que ce soit le client qui vient nous voir en disant, j'ai pas été bien conseillé.
Oui.
Mais ça, c'est différent.
Mais c'est hyper différent. C'est hyper
très,
différent,
c'est très différent
que avoir fait des choses et quelqu'un qui vient et qui distille du doute sur ce qui a été fait. Parce que en plus, comme entrepreneur, il y a quand même à un moment le besoin d'avancer, c'est-à-dire de mettre un sujet derrière soi. Il y a un choix qui a été fait et maintenant on avance sur d'autres trucs. Et donc, quand quelqu'un vient, mais vous auriez peut-être pu, ah moi j'aurais plus vu les choses comme ça, etc., etc. Et là, on est un peu là genre, oui, enfin,
oui, mais il y a une bonne raison. Et puis en fait, voilà, maintenant c'est comme ça, et on fait avec. Et donc, est-ce que tu peux m'aider à avancer sur cette base-là ou pas?
Ouais.
On n'est pas là pour tout renégocier en permanence et réinventer la roue en permanence, c'est pas la peine. Parce que je suis d'accord avec vous, en fait il faut pas que le juridique ou l'avocat, en fait il faut que l'avocat soit là pour soulager l'entrepreneur ou le fond. On n'est pas là pour rajouter du brouhaha et vous empêcher de faire votre business. À la fin de la journée, quand il y a une levée de fonds, les fonds, ils sont levés pourquoi? Pour que le business se développe. Si vous passez 150% de votre temps à gérer des questions juridiques et des avocats, bah, le business, il va pas aller bien, et là, personne sera content. Et donc, en fait, on est là pour, au contraire, vous soulager, et pas du tout là pour en rajouter. Non, bon, après, ça, c'est facile, hein, mais...
La pratique est voilà.
C'est pas
c'est
toujours
évident.
La différence,
voilà,
bien
exactement.
Sûr.
Et donc cette discussion est partie de ma première question qui était comment est-ce que vous y étiez prise pour développer l'aspect service partner. Et puis ensuite vous dites bon il y a un moment où quand même je me suis dit allez je vais y aller.
Je me suis botté les fesses.
Voilà, vous vous êtes botté les fesses.
Clairement en fait c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit mais. En fait, j'avais eu un complexe par rapport à d'autres de mes associés ou des autres collaborateurs qui étaient à mon niveau à l'époque, c'est que moi, j'avais pas fait d'école de commerce. Moi, j'avais fait mon double diplôme droit français, droit espagnol. J'étais partie un an à l'LM à Londres. Et aussi, j'ai pas me rajouter une école de commerce en plus. Là, c'est bon, j'ai fait mes études, j'en ai marre. Et donc, je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est où est-ce qu'ils sont les gens? Comment est-ce que je vais les rencontrer? J'aime pas aller à des cocktails, c'est pas, j'aime pas me mettre en danger comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, bah, ça va être plus simple, je vais développer ce qui existe en interne, ce qui est très bien. Et puis, il y a un moment où c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, mais j'aimerais bien moi aussi voir si j'en suis capable. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas grand-chose. En fait, qu'est-ce que j'ai à perdre? Bah, j'ai à perdre qu'on me dise qu'on me réponde pas. J'ai à perdre qu'on me dise non. Mais en soi, à part dans ce cas-là une blessure d'ego, j'ai pas grand-chose à perdre. Et donc, je me suis dit, bah, je vais quand même essayer d'y aller. Et je vais essayer de me mettre en danger et d'aller voir des personnes que j'ai pu croiser dans les dossiers. En fait, on commence petit. Donc, généralement, je suis pas allée voir au départ des gens que je n'avais jamais vus. Ça va être des gens que j'ai pu croiser sur les dossiers. Et c'était l'avantage, en fait, avant le Covid, on faisait des closings physiques. Et donc, on rencontrait les gens. Et donc, c'est là où on discutait. Et en fait, du fil en aiguille, ces gens-là sont devenus des clients. Avec les closings DocuSign, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on est tous à nos ordinateurs. Donc, on a moins de réunions physiques. Mais c'est vrai que les réunions physiques pour ça, bah, ça nous forçait à aller discuter avec les gens et avec des gens qui n'étaient pas nos clients, qui n'étaient pas forcément la cible, mais qui pouvaient être des investisseurs historiques, qui pouvaient être des co-investisseurs. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre en danger. Et puis après ça, je me suis dit, bah, voilà, je vais y aller. Et ça demande du temps. En fait, j'ai envie de dire que, parce que vous m'avez posé la question, quand est-ce que j'ai commencé? Et en fait, j'ai commencé tôt, parce qu'on m'avait dit, tu verras, ça met entre 3 et 5 ans, entre le moment où tu as les premiers signaux avec un client ou avec un prospect potentiel et le moment où tu arrives à le transformer en étant un client. Ça met du temps. Et donc, c'est venu comme ça. Et puis après ça, en fait, c'est aussi en ayant discuté avec les gens qui étaient à mon niveau, en fait, chez les clients, parce que eux aussi ont bougé. Et donc, ils pouvaient être dans un fonds et puis après ça, ils sont dans un autre fonds. Et puis, au bout d'un moment, eux-mêmes deviennent les décisionnaires. Donc, ils deviennent les clients.
Mmh. Ce temps, justement, que ça a pris, où vous avez annoncé entre 3 et 5 ans pour que la graine devienne fleur, est-ce que c'est effectivement le temps que ça a pris?
Je pense en moyenne, ouais. C'est pas toujours entre 3 et 5 ans. Mais je dirais, entre les premiers efforts que l'on met à faire du business développement, etc., et les premiers fruits qu'on récolte, après, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on en fait et plus, malgré tout, c'est un petit monde. Et donc, les gens se connaissent et les entrepreneurs parlent entre eux et les fonds parlent entre eux. Et en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que lorsque c'est un client qui nous recommande. Donc, en fait, on a quelqu'un qui nous appelle ou alors un client qui envoie un email en disant bah, « J'ai tel fonds ou telle personne que je connaissais qui cherche un avocat, je t'ai recommandé. » Et voilà. Et en fait, après ça, il faut pitcher. Donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Mais en fait, au fur et à mesure, plus on grandit et plus on conseille de gens, et plus après ça, ça va être plus simple. Mais au départ, en effet, je vais dire, ça met quelques années, oui. Donc, le conseil, c'est vraiment de commencer tôt, en fait, et de commencer avec les gens de son niveau. C'est-à-dire que quand on est mid-level, ça sert à rien d'essayer d'aller récupérer un client du CAC 40 tout seul. Parce que généralement, ils ont beaucoup de gens qui sont
autour de les courtiser.
Voilà, et qui frappent à leur porte. Et donc, dans ces cas-là, c'est commencer à son niveau, en se faisant des cafés, etc., avec les futurs décisionnaires.
En termes de positionnement, comment est-ce que vous avez commencé et comment est-ce que vous avez évolué? Est-ce que dès le démarrage, vous avez eu une réflexion de positionnement? C'est-à-dire, je vais aller chercher tel type de client et sur tel type de problématique? Ou est-ce qu'au démarrage, vous avez un peu commencé global, je vais rencontrer des gens et tout ça. Et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose que vous avez affiné.
Ouais. Je pense que là, au départ, quand on est jeune, on doit être un peu touche à tout. On est assez généraliste, en restant des spécialistes, mais malgré tout, c'est important quand on est jeune collaborateur de faire un petit peu de tout pour avoir une bonne vision. Et après ça, on commence à se spécialiser vers telle ou telle chose. Et puis après, en fait, j'ai envie de dire, on se développe en fonction de nos clients. Donc, plus les clients, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clients dans la tech, parce que c'était là où tout le monde investissait. Et donc, après ça, comme on s'intéresse à ce qu'ils font, on comprend leur business, donc on comprend leurs problématiques, ce qui fait qu'on parle la même langue que les autres entrepreneurs, que les autres fonds. Et après, avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand on a des clients qui nous recommandent, ils vont nous recommander à des personnes qui sont dans le même domaine qu'eux, en fait. Et c'est le cas, par exemple, moi, j'ai beaucoup de fonds qui sont basés à Londres, parce que j'ai beaucoup de clients à Londres, et donc après ça, tout le monde se connaît. Donc ils disent, bah voilà, j'ai un investissement potentiel en France, j'ai pas de conseil en France, je suis conseiller normalement en Angleterre par tel cabinet qui n'a pas de bureau à Paris. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller ? Donc, en fait, c'est comme ça aussi qu'on se spécialise, en fait, grâce aux clients, en fait.
Votre positionnement, vous avez plus fait un constat de ce qui s'était développé que quelque chose qui est parti de...
Alors, oui et non, attention, hein, c'est malgré tout, on choisit aussi ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, moi, qui m'intéressent moins que d'autres. Il y a des domaines où on a des sensibilités, des industries où on a de la sensibilité aussi. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art et tout ce qui est média, etc. Donc ça, j'ai un certain nombre de clients qui sont là-dedans. Il y a tous les clients industriels, parce que c'est vrai que malgré tout, voir quelque chose de concret sortir de terre, je trouve que ça, c'est génial. Et donc, en fait, on choisit aussi, malgré tout, hein, ce qu'on fait et les industries dans lesquelles on est. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on développe, en fait, par nous-mêmes, par les clients. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de très bons avocats. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on veut se différencier par rapport aux autres avocats? Et donc, est-ce que c'est par rapport à un axe international? Est-ce que c'est par rapport à un axe industriel? Est-ce que c'est un peu un mélange des deux? Mais ça, c'est une démarche que l'on doit faire nous-mêmes. On peut pas attendre que ce soit les clients qui le fassent pour nous.
Oui. Est-ce que ça fait le fruit aussi d'une réflexion, parce que vous avez beaucoup parlé de l'équipe, et mine de rien, cette réflexion en équipe, elle se pose aussi sur la question de la chasse des clients, c'est-à-dire, ok, à un moment, ensemble, est-ce que c'est, enfin, comment on s'y prend ensemble pour faire grossir, et qui se positionne comment, et qui va chasser sur quel type de terre, et
en
voilà.
En fait, je dirais qu'on chasse beaucoup en meute aussi.
Vous chassez en meute.
Alors, en fait, j'aime pas parler de chasse parce que ça fait vraiment prédateur, alors que c'est pas le cas, mais vraiment l'idée de, on est plus fort ensemble. Alors après, on va avoir chacun nos spécificités, on va être, voilà, on avait un collaborateur qui, lui, était très porté dans les cryptos à une époque. Moi, les cryptos, oui, je comprends dans le sens large. Après, lui, c'était assez fascinant. Il pouvait parler de crypto pendant très, très longtemps. Et c'est vrai que moi, j'étais là, d'accord. Et donc, voilà, lui était beaucoup plus porté...
C'était un positionnement sur un type d'actif.
Mais exactement, en fait. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui nous intéresse aussi. On a un client qui est... Un collaborateur qui, lui, est beaucoup plus sur les clients très corporate, parce que voilà, c'est des codes qu'il a aussi, et donc c'est lui qui sera plus mis en avant sur ce type de client là. Quand on a voilà, après on choisit un petit peu quand on est associé et qu'on a une plus grosse équipe, on choisit les collaborateurs que l'on met sur les dossiers en fonction aussi des forces et faiblesses de chacun et des appétences de chacun. Et après ça, on voilà, ça arrive très souvent qu'on aille pitcher des clients ensemble parce qu'on est plus fort.
Dans le travail de développement, il y a, entre guillemets, tellement d'options. Vous voyez, il y a ceux qui vont beaucoup privilégier la doctrine, beaucoup de conférences, très droit, d'autres qui vont être plus sur des aspects plus sectoriels, plus... Il y a les déjeuners, il y a les... Vous, est-ce que vous avez trouvé votre style au fur et à mesure
de... J'aimerais bien dire que oui. Je pense que je peux encore m'améliorer. Voilà, ce serait illusoire de penser que j'y suis et que j'ai toutes les réponses. C'est pas le cas. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Après, je pense aussi que si on court les conférences et les sommets et etc., il y a un moment où on n'a plus le temps de faire les dossiers. Et je suis persuadée qu'il y a un moment où ça va se ressentir dans ce cas-là. Et donc, en fait, je pense qu'il faut garder du temps pour chaque chose. C'est-à-dire qu'il faut être bon techniquement. On est bon techniquement comment? En faisant les dossiers. Et on est bon et après ça, il faut aussi aller voir les gens. Donc, il faut trouver le bon dosage. Après, ceux qui sont très portés sur les points de droit, moi, c'est moins mon truc. Après, on peut le faire. Mais je le ferai différemment, c'est-à-dire qu'en fait, si je vais écrire un article, ça va beaucoup plus être parce que c'est un point que j'ai rencontré dans un dossier. Donc je me dis qu'il peut intéresser quelqu'un beaucoup plus que quelque chose de écrire un article de doctrine pour écrire un article de doctrine. Moi, c'est pas du tout la manière. J'aime le droit pour l'aspect intellectuel, mais j'aime aussi le droit appliqué au business et au business des gens. Et donc voilà.
Quand vous avez commencé vos efforts de développement, est-ce que, entre guillemets, c'était en plus du travail de production? Est-ce qu'il y a eu un aménagement un petit peu de, de faire de la place dans les journées qui font 24 heures pour ça, avec moins d'exigences peut-être en termes de production. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est un petit peu aménagé tout ça en termes de...
Alors, on doit le faire en plus. On doit le faire en plus. Après, malgré tout, on a une activité qui... c'était plus ou moins vrai en fonction des périodes. 2020, 21, 22 ont été des années particulièrement chargées. Et 2023 aussi d'ailleurs, mais jusque-là c'était quand même assez cyclique, donc il y avait des hauts, il y avait des bas, et donc en fait je dirais que c'est on doit le faire en parallèle, et après c'est à nous de trouver comment est-ce qu'on, quand est-ce qu'on trouve le temps. Il y a ceux qui préfèrent faire ça tôt le matin, ceux qui préfèrent faire ça tard le soir, etc. Moi je suis plutôt du matin, donc je préfère arriver tôt le matin et pendant une demi-heure, une heure faire mes efforts de midi. Ou alors, au contraire, faire produire tout ce que je dois produire parce que je vais aller déjeuner avec un client ou parce que j'allais prendre un café. Et donc voilà, c'est plutôt... normalement, ça se fait en plus de tout le reste. Ça se fait en bonne intelligence avec l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait illusoire de penser que si on bosse déjà 15 heures dans la journée, on va pouvoir se rajouter 3 heures de midi en plus. C'est pas vrai. Donc de facto, en réalité, ça vient en plus de tout le reste. Mais ça se compense, en fait. C'est... Après, l'autre point, c'est qu'on a tous tendance à se dire on va faire du midi quand c'est plus calme. En réalité, non, il faut faire ce midi quand on est aussi très occupé. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de le faire quand on n'aménage pas en réalité nos heures par rapport à ça. Je dirais que c'est une organisation dans la journée ou dans la semaine ou parfois le week-end. On peut penser à une idée de midi. C'est-à-dire que moi, j'ai dans mon téléphone, j'ai une note où je mets... dès que je pense à un truc, je le note. Après ça, je verrai quand je le traite. Mais au moins, je peux le noter, ou quand je lis, j'arrive le matin au bureau, ou quand je suis dans le métro, je lis le journal. Et je peux m'envoyer des articles en me disant, mais ça peut être intéressant, parce qu'on parle de tel ou tel truc, etc. Et donc, je vais le développer à ce moment-là. Puis après, il y a les événements où ça vient en plus, et donc auquel cas, on organise notre charge de travail par rapport à ça. Quand il y a l'IPM, si je dois aller me faire, si par exemple, là, quand j'étais à New York la semaine dernière pour un dossier, je suis partie 3 jours, il y a eu 2 jours pour le dossier, j'ai gardé un jour pour aller voir mes clients qui sont à New York, parce que quitte à être sur place, autant en profiter. Donc c'est plutôt à nous de nous organiser pour voir quand est-ce que ça a du sens.
Tout ça avait été discuté avec vos associés, vous en aviez parlé le moment où vous avez dit ok, maintenant j'ai envie de commencer à faire du BD, vous en aviez parlé avec eux?
Oui, et puis surtout j'ai aussi été beaucoup poussée pour ça.
Ouais.
Voilà. C'est-à-dire que quand je disais que l'avantage d'être une équipe qui travaillons ensemble depuis quand même plusieurs années, c'est qu'on connaît nos forces et faiblesses. Et moi, ils savaient que c'était ma faiblesse. Hein. Moi aussi, pas mal poussé là-dessus. Et puis après, il faut le temps que, en fait, ça va être distillé de temps en temps. Ce serait bien que tu le fasses un peu. Et puis, est-ce que ça, tu penses pas que ça pourrait être une bonne idée? Est-ce que cette personne-là, tu penses pas que tu devrais aller la voir? Puis à un moment, on se dit, on va y aller. Voilà.
Ça me fait penser à une amie qui a aucune appétence spontanée pour le bidi et son associé la pousse. Et bon, elle s'y met du coup, mais
c'est un peu forcé. Moi, je me souviens des premières fois qu'il a fallu que j'aille faire une conférence comme ça, j'avais pas du tout. En fait, j'étais pas prévu que ce soit moi qui le fasse. Ça devait être mon associé qui, je ne sais plus pour quelle raison, n'a pas pu y aller au dernier moment. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu peux y aller? J'ai pas le choix. OK. Et donc, en fait, allons-y. Et donc, en fait, voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important. C'est un peu un travail d'équipe aussi. C'est
Non, mais ce qui est chouette là-dedans, c'est que, on va dire, des personnes voient ce potentiel et poussent un peu pour qu'il se réalise. Enfin, que ce soit pas complètement laissé au déclic de la personne elle-même, je pense que ça en pousserait beaucoup vers la sortie.
Bien sûr.
Et probablement d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'avocats qui, n'ayant pas eu cette main qui les a vraiment tirés, je pense comme un petit chaton qu'on prend par la peau du cou, quoi.
Mais c'est exactement ça.
Et ben, ce serait pas réalisé. Et doit y en avoir certains qui n'ont pas eu cette petite pichenette là pour les pousser à se dépasser.
Ça reboucle avec notre début de conversation. À propos de l'équipe, en disant, mais cette fidélité, normalement, on voit beaucoup de gens qui partent au bout de 2-3 ans. Et c'est pour ça que j'ai dit oui, sur le court terme, ça a du sens. Mais sur le long terme, un peu moins, puisque justement, avoir quelqu'un qui soit notre mentor ou qui nous pousse, et des gens, des gens de l'équipe au sens large, hein, du cabinet, etc., qui nous poussent, si on arrive dans un nouveau cabinet, c'est pas forcément le cas parce que les gens nous connaissent pas. Donc ils vont pas forcément savoir que on a besoin de ça. Après voilà, c'est je pense que certains ont cette appétence, d'autres ne l'ont pas. Je pense que tout le monde n'a pas forcément vocation à être associé, n'a pas forcément cette envie aussi. Je pense qu'il y a des gens qui seront très bien en tant que très très bons service partner parce qu'ils seront extrêmement bons techniquement, mais qui n'ont pas du tout cette fibre business développement ou développement de clientèle au sens large. Et je pense qu'il en faut aussi. Il faut aussi des personnes qui soient capables justement de délivrer ces dossiers, à qui on peut les confier aussi. Voilà.
Aujourd'hui, quel est le gros de votre activité? Vous travaillez principalement pour des fonds, pour des entrepreneurs. Vous avez beaucoup évoqué les fonds.
Alors, je suis à 50-50.
50-50
à peu près. Ma clientèle française, c'est essentiellement des sociétés. La clientèle fonds, c'est essentiellement des fonds étrangers. Alors, c'est pas essentiellement, c'est pas 100%, mais voilà, c'est, en gros, je suis à 50% côté société, 50% côté fonds, et c'est volontaire de ma part. Pourquoi? Parce que je pense que, quand on est que côté fonds, on perd parfois, de vue le fait qu'il y a des, que c'est une entreprise derrière, et que, justement, on est là pour le long terme. Si on est que côté société, on peut avoir tendance à oublier que la société, ce n'est pas que ses fondateurs, c'est les fondateurs, mais également le management, mais également ses actionnaires. Donc moi, j'aime bien être des deux côtés. J'aime bien être avec les fondateurs et le management pour les aider à passer à l'étape d'après. Et j'aime beaucoup être du côté des fonds qui investissent dans plein de sociétés différentes. Et donc, on est obligé de s'intéresser à d'autres business et on fait les audits de ces sociétés et on les regarde de manière assez détaillée, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent.
Et vous disiez en termes de secteur, donc principalement la tech.
Beaucoup la tech.
Ouais, vous avez évoqué l'art aussi.
Avec Art Basel notamment. Après, il y a les médias, avec Brut. Voilà, c'est ce genre de... l'industrie, c'est vraiment tout ce qui est IP intensive, en fait. Je le présenterais plutôt comme ça, tout ce qui est hautement réglementé. Où on essaie de s'intéresser à tout ça et on a besoin de comprendre le business model derrière.
Comment est-ce que vous voyez la suite? De quoi est-ce que vous avez envie?
C'est une question que je me pose régulièrement. parce que pareil, une fois qu'on est devenu associé, on se dit, bah, maintenant, c'est quoi la suite? Parce qu'on est associé, donc en fait, dans la carrière, une fois qu'on est associé, bah, on est associé. Je pense que maintenant, la suite, c'est de consolider ce que j'ai commencé à faire. C'est de consolider le business, consolider l'équipe, la faire grossir aussi. C'est que l'équipe grandisse aussi bien en taille, mais également en seniorité et en maturité et en position, donc en étant cancel, en passant associé, etc. Et après, c'est, je pense, de continuer de réussir, plus exactement, à ne pas perdre l'émerveillement que j'ai dans ce métier. Et je pense que la difficulté, elle est là aussi. C'est de réussir à toujours se réinventer, de toujours trouver des nouvelles opportunités. Là, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup la question de l'intelligence artificielle dans notre métier. Voir comment est-ce qu'on peut l'anticiper, comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait, dans la suite. Voilà. Et puis après ça, il y a la question du management, de l'équipe, de... voilà. C'est tous ces éléments-là. Et donc, c'est de plus penser également uniquement qu'à soi, mais également de penser au sens large, à l'équipe, au cabinet, aux autres bureaux. Là, voilà, j'ai eu tout un truc d'ambassadeur où j'ai été faire la tournée de plusieurs bureaux aux États-Unis pour non pas présenter mon business, mais présenter le bureau de Paris. Et voilà, donc c'est vraiment de développer un petit peu tout ça aussi. Je pense la suite, c'est de continuer à se challenger.
Quelque chose de plus collectif.
C'est quelque chose, de collectif. Bah, on avait déjà ce côté collectif, mais encore plus collectif et de pas uniquement équipe, de plus également cabinet. Et après ça, voilà, de voir comment est-ce qu'on arrive encore à se développer, comment est-ce qu'on arrive encore à pousser notre art encore plus loin.
Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose?
Non, puisque comme je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai envie de dire, je l'ai pris comme une conversation. Donc, dans une conversation, on n'a pas des questions particulières qu'on se pose.
Des sujets.
Alors, je vais te dire, il y en a une, je suis très contente qu'on ne me l'ait pas posée. Parce que généralement, c'est celle à laquelle j'ai tout le temps droit. C'est, mais c'est pas trop dur d'être une femme dans ce métier?
Ah oui. Voilà. Moi, je m'interdis ces questions.
Voilà. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'avais accepté cet entretien, en fait. Mais malgré tout, on s'y attend toujours un peu. Donc, voilà. Mais c'est pas une question que j'aurais aimé qu'on me pose, en fait. Parce que je considère que c'est pas une question à se poser, parce que c'est pas une faiblesse d'être une femme, c'est une force des choses aussi, donc voilà.
C'est un fait, quoi.
C'est un fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas savoir si c'est plus simple d'être une femme ou un homme, parce que je ne suis pas un homme, en fait. Donc, je sais comment c'est pour moi, je sais pas comment c'est forcément pour une autre femme, je sais pas comment c'est pour un homme, donc, voilà.
Merci beaucoup pour cet échange. Ah non, attendez, je vous ai pas posé mes questions de fin. Ah. Quelle est votre dernière joie?
Professionnel?
Comme vous voulez.
Pour moi, la joie ou le bonheur, en fait, c'est plein de petits moments. Donc, dans une journée, il y a plein de petits moments de bonheur.
Donc, votre dernier petit moment de bonheur?
Alors, j'ai envie de dire, c'était la soirée que j'ai passée hier soir avec... on s'est fait une soirée fille avec ma mère et mes sœurs. Voilà. Et on s'est fait une comédie musicale, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps.
Laquelle?
On a été voir Notre-Dame de Paris pour les 25 ans. Voilà. Donc, c'est quelque chose... j'aurais jamais cru le faire, et surtout que c'est un spectacle qui est quand même plutôt jeune, mais c'était génial, on a passé une super bonne soirée. Et donc moi, c'était un petit moment de bonheur. Un autre petit moment de bonheur, ça va être, voilà, c'était une discussion que j'ai eue avec l'équipe, et je me suis dit, ça y est, il y est, en fait. Et c'est des petits moments de bonheur, en fait. Voilà. Donc, ma plus grande joie, c'est pas ça. Est-ce que c'est, voilà, c'est ça.
C'est votre dernière joie, hein. C'est
ma dernière, j'ai envie de dire,
c'est cette comédie musicale en famille.
Voilà, j'ai envie de dire que c'est ça. Pour la dernière joie professionnelle, ça devait être le dernier très gros dossier qu'on a réussi à closer, d'avoir réussi à trouver la solution et de l'avoir poussé jusqu'au bout. C'était quand même un vrai moment de joie.
Quel est votre principe déontologique préféré?
J'ai envie de dire qu'en fait, plus qu'une question de principe déontologique, c'est des questions de valeurs que l'on a. Et je pense que les valeurs que l'on a dans la vie professionnelle doivent être les mêmes que dans la vie personnelle. Et qu'il faut toujours être extrêmement droit et honnête dans la manière dont on vit ce métier.
Donc droiture et honnêteté.
Oui.
Ça va avec la probité, non?
Ça va avec la probité, exactement. C'est-à-dire que je pense que la route est longue. Et je pense qu'il est important d'être fidèle à ses valeurs.
Et dernière question, qu'est-ce que vous portez sous votre robe?
Malheureusement, en fait, on porte peu la robe. Moi, je porte peu ma robe, mais quand je porte ma robe, je porte une robe en dessous. Voilà.
Merci pour cet échange.
Merci beaucoup.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine.